Pas Ashiva Shoftenu Kivarishona. La bracha Ashiva Shoftenu Kivarishona, c'est la 11e bracha de l'Amida. La 11e bracha de l'Amida, elle a été instaurée juste après la bracha précédente, dans laquelle on dit Teka Beshofar Gadol Cherutenu. On demande à Kadosh Baruch Hu, la semaine dernière, donc dans la 10e bracha, on a expliqué comment on demandait à Kadosh Baruch Hu, dans la bracha Teka Beshofar. On demandait à Kadosh Baruch Hu de sonner le grand shofar et de faire ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot, ça veut dire rassembler tous les exilés en Terre Sainte. Après la 10e bracha, va venir la 11e bracha. Le Levouche explique pourquoi la 11e bracha, de quoi elle va parler. Elle va parler du fait qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de ramener le royaume de David, ou pas de David, en tout cas le royaume cachère tel qu'il a toujours été. Pourquoi on le demande maintenant? Alors le Levouche explique, il dit que quand Kadosh Baruch Hu va rassembler tous les exilés, d'accord, donc Kadosh Baruch Hu va faire le, c'est écrit qu'il va faire le din contre les Rechaïm. Quand on dit les Rechaïm, ça veut dire contre tous ceux qui sont au pouvoir et qui utilisent mal leurs fonctions. Et c'est là que Kadosh Baruch Hu va faire le miracle de Ashiva Shatonu Kvarishona. Ça veut dire que tous ceux qui seront au pouvoir seront des gens cachers. C'est ce qu'on va dire dans la tfila de Ashiva Shatonu. C'est le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que très souvent, dans la majorité des cas, les gens qui sont à la tête ne sont pas cachers du tout. Donc une fois que Kadosh Baruch Hu va rassembler les exilés, c'est là qu'on dit Ashiva Shatonu. Et donc là, ce pasouk-là, il parle, bien entendu, cette bracha-là parle de la Géoula. Alors, dans les mots. Ashiva Shoftenu Kevarishona. On demande à Kadosh Baruch Hu de ramener nos juges Kevarishona comme ce qui était au début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges qu'on avait à l'époque, c'était des juges qui étaient cachers. C'est pas des gens qui étaient soudoyés ou des gens, d'accord? Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de ramener nos juges Kevarishona comme ce qu'ils étaient avant, ça veut dire des gens qui sont cachés, des gens qui sont tzadiques. Veyo atrenu kevatechila. Yo atrenu est nos conseillers. D'accord? C'est quoi nos conseillers? Alors nos conseillers, on va expliquer tout ce que ça veut dire. C'est le Malbim qui explique. D'accord? Il dit c'est quoi Yo atzair? C'est ceux qui donnent des conseils. Ça veut dire les gens qui donnent des conseils. Normalement, le conseil doit être impartial, pas seulement impartial, mais il doit être pour notre bien. Le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, même quand quelqu'un vous donne un conseil, on ne sait pas est-ce qu'il a un intérêt derrière la tête ou pas. D'accord? C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Veyuat Senu Kevatechila. Et que ceux qui nous donnent des conseils, face à Kadosh Baruch Hu, que quand ma chère va venir, ceux qui vont donner des conseils seront Kevatechila, comme ils ont toujours été au début. C'est-à-dire des gens cachers, qui donnent un conseil impartial, qui donnent un conseil désintéressé, et que c'est un bon conseil. Ils ne sont pas là pour te faire tomber. Ve'aser mimenu, et Akadosh Baruch Hu enlève de nous. Yagon va anacha. D'accord? Yagon, c'est le malheur, va anacha et le soupir, qui sont à cause de quoi? Qui sont à cause donc de ces juges qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, même si tu n'as pas décidé d'amener tout de suite Mashiach, mais au moins, Akadosh Baruch Hu, on te demande de ne pas avoir à souffrir de ces juges qui déforment le din. N'oubliez pas, c'est Mouracha qui parle de Mashiach. On dit à Kadosh Baruch Hu, même si en attendant Mashiach n'est pas encore là, et que la solution ultime qui est que tous les juges soient cachés, on ne l'a pas, alors au moins on te demande à Kadosh Baruch Hu que ceux qui sont à notre tête fassent qu'on n'ait pas à en souffrir et à soupirer de ça.
Anacha, c'est pas si un cadeau.
Ah non. Anacha avec un hé au début, c'est une remise.
Bon, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut voir ça, que le hé, il viendra remplacer cet alef.
Amen, amen. Bon, on voit les Israéliens là. Même alors, en Israël, vous demandez des remises.
Cadeau.
Je crois que dans le Sidur Sfarad, c'est écrit Vatsar Minut Tsara Yagon Vanacha. Comment c'est écrit?
Ouais, je crois qu'il y a Tsara.
Ah, ça,
non, ça c'est le Tsara.
D'accord. Bon. Donc, c'est la même chose. Donc, Yagon Vanacha. Yagon Vanacha, donc le malheur. Le malheur et le soupir donc, qui pourraient venir à cause de ces jugements. D'accord, puisque dans Michelet, le roi Salomon, il dit comme ça, il dit un proverbe, « Ubimshol am, ubimshol recha, yanach am », que lorsqu'un racha domine, le peuple soupire. D'accord, donc c'est pour ça que, pour se calquer sur ça, dans la Mida, on a dit que tant que Mashiach n'est pas là, donc si nos juges sont tordus, donc dans ce cas-là, on devrait souffrir, on devrait soupirer. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous enlever le soupir. C'est pour ça qu'on n'a pas dit seulement le terme malheur, on a dit aussi le terme soupir. C'est pour faire appel à ce que le roi Salomon a dit. Alors, Umloch alenu ata Hashem levadecha. Et à Kadosh Baruch Hu, donc, dévoile ta royauté, toi seul, bechesed uvrachamim. Bechesed uvrachamim, c'est-à-dire par bonté et par miséricorde. Betzedek uvmishpat. avec justice, d'accord, et avec jugement. Alors il y a quatre termes ici, c'est très intéressant, quand on analyse les quatre termes qu'on a ici. Tout d'abord, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous juger de chesed. Ensuite, on demande chesed, c'est la bonté. Ensuite, on demande rachamim, la miséricorde. C'est quoi la différence entre la bonté et la miséricorde?
Ah, on en a parlé ça dans le Tania, chapitre 47.
47
46.
Bon, alors tu vas nous dire
bah.
C'est quoi la différence entre bonté et miséricorde?
Page 127.
Respect, la miséricorde. Je suis pas sûr, attends. Respect.
Mes respects, mes honneurs. On dit mes respects à un homme, mes honneurs à une femme, comment ça marche? Au contraire. Il y a une règle, je crois. Bon. Alors c'est quoi la différence, David, entre...
Mes hommages.
Ah, c'est quoi la différence entre chesed et rachamim, entre la bonté et la miséricorde?
Hello.
Je te rappelle qu'on a expliqué quelque chose, mais t'as oublié, c'est quoi?
Dans la bonté, il n'y a pas nécessairement de la miséricorde.
Oh, la boulette! Vous mettez en touche, là, monsieur Bismuth, sans...
Bah oui, l'un
sans,
inclut l'autre,
vous manquez de respect. Qui peut nous dire la différence entre bonté et miséricorde? Alors, bonté et miséricorde, quoi la différence?
Il y a le pardon là-dedans.
Hein?
Alors dans la bonté, il n'y a pas nécessairement pardon.
La bonté, il n'y a rien en face.
La bonté? Ah bien, bien, oui. La bonté, c'est
un geste pur et gratuit.
D'accord. Et la miséricorde?
C'est gratuit.
Ça répond à une demande.
Ça répond à une demande, bien. C'est expliqué comme ça. C'est écrit que la bonté, c'est lorsque Kadosh Baruch Hu est bon sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Donc ça c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu en premier lieu. On dit à Kadosh Baruch Hu, nous on aimerait que tu nous donnes par bonté. Ça veut dire, sans qu'on te demande, ne tiens pas compte de nos fautes, ne regarde même pas nos fautes. C'est pas que tu regardes nos fautes, mais que tu es miséricordieux, tu dis bon, je vous donne quand même. On dit que celui qui est bon, il regarde même pas. La différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est miséricordieux. Celui qui est bon, comme tu as dit, celui qui est bon, il donne. Il ne se rend même pas compte qu'il ne faut pas donner. Celui qui est miséricordieux, il se rend compte qu'il y a un problème, mais il dit, bon, je donne quand même. Donc, là, ici, on va aller en décrescendo. D'accord. Tout d'abord, on demande à Kadosh Baruch Hu, Betzedek. Tout d'abord, on demande à Kadosh Baruch Hu, Bechesed. Donne-nous, Bechesed, ça veut dire par bonté, ça veut dire sans regarder nos fautes. Maintenant, si ce n'est pas Bechesed, que ce soit Berachamim. C'est quoi Berachamim? Berachamim, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que même si tu as vu une faute, d'accord, fais comme si tu n'avais pas vu. Très bien. Ensuite, on dit, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Si ce n'est pas avec ça, Betzedek ou Mishpat. Tzedek, c'est la justice. Et Mishpat, c'est le jugement. Alors, on a un avocat ici qui va nous expliquer la différence entre la justice et le jugement.
Le jugement n'est pas toujours juste.
Ah bien, bien. Et ben seulement ça, le jugement, il faut qu'il ait lieu. La justice, on a, ça veut dire, la justice, c'est ce qui est juste, ce qui est vrai. Mais des fois, on n'a pas les bonnes preuves.
Exact.
Hein?
D'accord.
Donc, c'est quoi la différence entre la justice et le jugement? La justice, c'est la vérité. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, même si tu ne veux pas nous donner ni par bonté ni par miséricorde, donne-nous pour la vérité. J'ai pas les preuves à te dire, je connais pas les preuves, je sais pas comment t'expliquer que mes parents ont fait ça, mes grands-parents ont fait ça.
Mais toi tu sais,
donc justice. Et si c'est pas avec justice, alors au moins, Bemishpat par un jugement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'amener les éléments de preuve qu'on
veut. Ouais.
Donc c'est en décrescendo.
J'ai fait appel à signaler qu'ici il n'y a pas Bechesed dans le séparade. Hein.
Bon, c'est moi, il y a et c'est intéressant.
Eh oui, oui. On a gommé Bechesed.
Qu'est-ce qu'il a dans le Ishmael Tiller? Dans l'Ishmael Tiller, qui le dit?
Il y a
Bechesed.
Il est où?
Bechesed
ou Ah, Bechesed ou Rachamim. Ben voilà. Oui, il y a Bechesed ou Rachamim.
Dans le Patach, il n'y a pas.
Mais non, on est là.
Bon, le Patach, il est où? Ça n'a jamais été une référence.
On commence à trouver de plus en plus nul, ce machin.
Non, il est bien fait, mais...
Oui, il est bien mis en page.
Qu'est-ce que j'ai ici? Non, il dit ici Bechesed ou Rachamim. Voilà. Mishma Tzilar, Bechesed ou Rachamim. C'est logique. D'accord. Bechesed ou Rachamim, Betzedek ou Mishpat. Voilà. Baruch Ata Hashem. Alors on continue la bracha. Baruch Ata Hashem, tu es béni à Kadosh Baruch Hu. Melech Oev, Tzedaka ou Mishpat. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es un roi. D'accord. Tu es un roi qui aime Tzedaka ou Mishpat, la justice. D'accord? Et le jugement. Alors pourquoi tout d'un coup ici on fait appel à la royauté d'Akadosh Baruch Hu? On dit parce que c'est écrit Meler Bemishpat Yamid Aret. C'est écrit toujours dans le Tehilim. Mais ça, c'est, on dit que c'est attribué au roi Salomon. c'est écrit Meler be Mishpat Yamid Aretz, qu'un roi, il va faire tenir, il va faire tourner la terre grâce au jugement. Donc c'est pour ça qu'ici qu'on parle du jugement, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu en tant que roi. Donc à Kadosh Baruch Hu, toi tu es un roi qui aime Tzedaka ou Mishpat. D'accord ? Tzedaka ou Mishpat, ça veut dire qui aime la justice et ou Mishpat et le jugement. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on n'est pas trop prétentieux à la fin de la bracha. Ça veut dire comme ça. La structure de la bracha, c'est intéressant, il y a beaucoup de détails dans cette bracha. Tout d'abord, on demande à Kadosh Baruch Hu de ramener les juges, les vrais juges comme il y avait à l'époque. Ouais. Ça, c'est par la venue de Mashiach. Maintenant, on dit à Kadosh Baruch Hu, même si ce n'est pas encore le cas, même si Mashiach n'est pas encore là, on te demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir à souffrir des juges actuels. Ça, c'est deuxièmement. Troisième palier de l'Amida, d'accord ? On demande à Kadosh Baruch Hu qu'actuellement, tant que Mashiach n'est pas là, on te demande de régner sur nous par Chesed ou Rachamim, donc Chesed, on a dit, c'est la bonté, Rachamim, c'est la miséricorde, Tzedek, c'est la justice, donc la vérité, et Mishpat, c'est le jugement. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, toi, tu es un roi qui aime la justice et le jugement, c'est-à-dire que même si tu dois faire appel à ça, eh bien, fais appel à ça, mais pas de problème, on n'a pas peur. Fais appel à ça, tu verras que, Kaviachol, si on peut dire, comme disent les commentaires, tu verras que si tu fais le jugement, tu verras que tu nous dois beaucoup de choses. Ça, disent les commentaires. Maintenant, vous avez remarqué...
Ici, il parle de charité.
Oui. C'est d'accord, il faut comprendre par justice. D'ailleurs, ici, il traduit équité. Vous voyez, avec équité.
Au début, équité. Et après,
c'est d'accord, traduire par le droit.
Ah bah, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Hein. Si au début, c'était équité, à la fin, c'est équité aussi. Hein. Ici, il traduit équité.
Ils veulent donner un sens.
Moi, j'en ai.
Non, moi, ce qui pointe, c'est le verbe « OE ».
Ouais, mais « Tzedek » et « Tzedaka », c'est pas pareil. Hein.
Ici, il traduit comme ça, Meler Oel Tzedaka ou Mishpat, roi qui aime équité et justice. Non, c'est évident, hein, avant de vous le dire, j'ai regardé, hein, j'ai vérifié. C'est clair que Tzedaka ici, que Meler Oel Tzedaka ou Mishpat, on parle ici de la justice. Ça veut dire, comme j'ai dit, la justice, ça veut dire la vérité pour la vérité, même si je n'ai pas les preuves à présenter. Alors, vous avez remarqué que pendant les 10 jours de pénitence, qu'est-ce qu'on dit, les Aseret et Metshuva, on dit à Meler HaMishpat. Ça veut dire quoi, Meler HaMishpat? Amelech Amishpat, ça veut dire le roi qui est assis, d'accord, actuellement, Amishpat sur le siège du jugement. Donc bien entendu, ça on l'a expliqué, on avait expliqué dans la première bracha, c'est le Orzaroua qui explique, d'accord, qui dit que pourquoi on doit changer cette bracha pendant la Seret Imetshuva, puisque comme la Seret Imetshuva, c'est des jours de din, d'accord. Donc c'est pour ça que dans la deuxième bracha, on a dit Amelech Akadosh. Pour dire qu'on parle plus d'Akadosh Baruch Hu comme un dieu, mais on parle d'Akadosh Baruch Hu comme un roi majestueux, un roi qui est là en train donc de juger. Et là aussi, c'est pour ça que quand on parle de jugement, puisque c'est des jours de din, donc on dit Amelech Amishpat, le roi qui va nous juger. Donc c'est une bracha très intéressante, parce qu'on parle de Mashiach, mais on va intégrer aussi des demandes pour aujourd'hui. Ça c'est... Oui.
Je peux me permettre de faire une petite parenthèse. Enfin, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si ça tient ou pas, et dans Beraramim Betzedek, je vois la femme et l'homme. Parce que la femme miséricordieuse, ça veut dire que elle, comme elle est régie par le sentiment, donc elle voit pas ce qui est autour. C'est-à-dire qu'en la chose, elle peut la donner sur le moment.
J'ai compris, oui. Pour l'instant. C'est un bon point ce que vous dites.
Et l'homme Betzedek, par justice, lui, il est un calculateur. C'est-à-dire lui, il va prendre en compte ceci, cela, que la femme, elle ne fonctionne pas.
C'est expliqué dans les commentaires, oui.
Les deux attributs. Bon, donc ils nous sont donnés par Hachem, donc ça...
C'est expliqué dans les commentaires, ouais, que la différence entre les quatre éléments qu'on a dit ici, les deux premiers sont liés au sentiment, et les deux derniers sont liés à l'intellect. Ouais. D'accord ? Mais vous voyez bien qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de faire appel, en premier lieu, on demande à Kadosh Baruch Hu de faire appel à sa miséricorde.
Au sentiment.
Sentiment. D'accord ? Mais après, on dit à Kadosh Baruch Hu que bon, on ne veut pas être trop prétentieux, donc au moins on demande le jugement.
Aux deux attributs
c'est sûr, non, c'est clair, c'est ça. Les deux premiers, c'est le sentiment, et les deux derniers, c'est l'intellect.
Qu'est-ce qu'on fait avec ce verbe de OR, qui est un état passif, qui n'est pas un état actif comme les autres brachot?
Oui.
On bénit Dieu parce qu'il aime, pas parce qu'il sait faire ceci, qu'il provoque cela ou non, parce qu'il aime.
Oui. Alors c'est la même question que vous posez. Quand le HSF explique la chose suivante. Moi je ne voulais pas rentrer dedans, mais ce que vous avez posé la question, je vais expliquer. Monsieur Bismuth, il pose la question. Monsieur Bismuth, il pose la question, il dit pourquoi, c'est quoi ce terme qu'on dit Meler Oev, c'est d'accord ou Mishpat? Donc on dit, Dieu, toi tu es un roi qui aime la justice, d'accord, et la charité. D'habitude, on demande à Kadosh Baruch Hu d'être quelque chose, ou de faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a quelques exceptions dans la Mida, mais en général, on demande à Kadosh Baruch Hu d'être quelque chose, de faire quelque chose. Et là, on a l'impression qu'on nous raconte une histoire. On dit, toi, Dieu, tu es un roi qui aime la justice, d'accord, et le jugement. Alors le Hé Tchoset explique la chose suivante, d'accord ? Ça veut, il dit que c'est pourquoi on dit que toi tu es un Dieu qui aime la justice et le jugement. Il dit qu'en vérité c'est une louange qu'on est en train de faire à Kadosh Baruch Hu. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu, toi tu es quelqu'un qui aime toujours la droiture, et pas seulement lorsque tu es sur ton siège de juge. Parce que vous avez des juges, d'accord, qui sont droits, mais qui sont droits seulement lorsqu'ils sont sur leur siège de juge. C'est-à-dire seulement lorsqu'ils sont en train de juger. Lorsqu'ils sont pas en train de juger, tu ne me prends pas la tête maintenant, moi je ne suis pas en train de juger. Et pour... c'est un shvar qu'on est en train de donner à Kadosh Baruch Hu, qu'on dit, toi, Kadosh Baruch Hu, tu es Meler Oef, c'est d'accord, Mishpat, c'est-à-dire tu es un roi qui aime toujours la justice, même si tu n'es pas en train de nous juger. Donc c'est un shvar caché qu'on est en train de faire à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il explique le HCC. C'est vrai qu'il y a une question. D'accord,
ouais.
Meler Oef, c'est d'accord, Mishpat.
Bon. Pourquoi
vous n'êtes pas convaincu?
Parce qu'on en a fait une bracha.
Oui, mais c'est une bracha qui est très, chargée. Dans cette bracha-là, on a inclus un shevach à Kadosh Baruch Hu, une louange à Kadosh Baruch Hu. Pour dire, toi, tu es un Dieu, qui est un roi, qui aime toujours. C'est-à-dire, pas seulement lorsque tu es sur ton trône. Toujours, tu aimes la justice, tu aimes la justice et tu aimes le jugement. Tu aimes ce qui est droit, ce qui est juste. Donc, juge-nous et donne-nous ce que tu nous dois. Ensuite, on passe à la bracha suivante, la 12e bracha de l'Amida. La bracha de l'Amida, c'est la malchinim et la vini malpititikva. Comme je vous l'expliquais plusieurs fois, cette bracha, à la base, n'était pas dans le décompte des 18 brachot. Elle a été rajoutée par la suite, quand elle a été rajoutée par la suite par rapport à une souffrance qu'on avait en exil de délateurs, de gens qui allaient rapporter des comportements peut-être qui n'étaient pas toujours cachers des juifs, ils allaient les rapporter au gouvernement, et on en a souffert beaucoup. Parce qu'à l'époque, on mettait à mort, hein, c'est pas comme aujourd'hui.
Cachers ou pas, hein.
D'accord ? Oui, des fois c'était cachers, des fois c'était des délateurs, des fois c'était des mensonges aussi, du chantage. D'accord ? Donc, c'était un problème, on a instauré une bracha pour ça. Parce qu'on n'a pas le droit de rapporter au gouvernement. Donc je finis avec cette bracha. Dans cette bracha-là...
Acrobate, quand même. Ça nous a coûté cher, hein.
Donc on demande... Vela machinim al tikva. Alors pareil, le Levouche, il explique, il dit pourquoi cette bracha a été instaurée juste après la bracha des juges. Parce qu'à quel moment les délateurs ont du travail, c'est lorsque les juges sont corrompus. Lorsque les juges sont corrompus, alors là, les délateurs et les gens qui font du chantage, ils savent qu'ils ont une marge de... Ils ont une marge pour faire du chantage. Mais si Akadosh Baruch Hu va ramener les juges, il va dire que tous les juges vont être cachés. Hein. Du coup, la machine immatéritique va. Du coup, les délateurs n'auront plus d'espoir parce que tu vas les rapporter à qui? Tu vas rapporter quoi? De toutes les façons, le juge, il est impartial. Le juge, il verra la vérité. Donc, comme explique le commentaire, à l'époque, c'était surtout un problème, pas seulement des gens qui rapportaient, mais surtout des gens qui inventaient des prétextes, qui inventaient des cas qui n'ont jamais existé. Donc, dans cette bracha, qu'est-ce qu'on dit? Une bracha qui est relativement simple.
Elle a été modifiée 10 fois, celle-là, hein,
ouais.
Au cours des...
Ouais, elle a été modifiée beaucoup, c'est vrai. Ça, c'est à l'époque de... Qui c'est qui a instauré cette fille-là? Vous savez qui a instauré cette fille-là? La bracha de la machine imaminim? Rabban Gamliel. C'est lui qui a instauré cette bracha. Parce que malheureusement... Alors, pas seulement ça, le commentaire explique, ils disent que le chantage que ces gens-là faisaient, C'était un chantage à double tranchant. Tout d'abord, c'était un chantage pour tirer de l'argent des gens, d'accord, malheureusement. Mais c'était un chantage aussi pour détourner les gens de la Torah. Puisqu'il lui disait, si tu veux que je rapporte pas ce que tu fais, viens avec moi, on va étudier un petit peu les bêtises, on va étudier un petit peu la culture grecque, etc. C'était une réalité à l'époque. Ça veut dire que c'était à double tranchant. Ils utilisaient ça non seulement pour tirer de l'argent, et ils utilisaient ça aussi pour détourner le peuple juif de la Torah. Et là, quand il s'est rendu compte de ça, Rabban Gamliel s'est rendu compte de ça, il a instauré une bracha particulière pour demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas donner d'espoir à ces gens-là. Donc, Vela Malchinim Altei Tikva. D'accord ? La Malchinim, c'est quoi la Malchinim ? La Malchinim, comment
il... Je présume qu'il a... Il a rapporté les rois à Kodesh, parce que quand la Grande Assemblée, donc 18, c'est Haït, c'est la vie,
oui.
On peut dire. Pour se permettre après de décaler ce chiffre, c'est que
ouais.
Forcément, il a l'aval d'Hachem pour... C'était prévu même à...
On n'est pas à la place de Rabban Gamliel, certainement.
Non, mais c'est
sûr, oui, c'est sûr. C'est sûr, évidemment, c'est évident.
Parce que bon, la Grande Assemblée, c'est sûr qu'il...
C'est comme les Chachamim qui ont rajouté les brachas pour le jeûne, la bracha de Hanenu, etc. C'est parce que c'est sûr, c'est les Chachamim, ils ont le roi Hakodesh, on n'est pas à leur place. Donc, Vela Malchinim, Altei Tikva. La Malchinim, on l'a dit, c'est... Comment introduit la Malchinim? C'est les délateurs?
Les hérétiques.
Les
hérétiques.
Hérétiques.
C'est la minime.
Malchinim, c'est les...
Non, c'est pas les hérétiques, la Malchinim. La minime, peut-être.
La minime, c'est les délateurs.
Ah. Ah non, c'est le contraire.
Minime, ce sont les hérétiques.
Ça, c'est minime, c'est les hérétiques.
C'est des mots qui, de l'hébreu moderne.
Bien sûr. Cherchez dans le dictionnaire, dans le Larousse. Vous avez le Larousse hébreu français,
ouais.
Vous verrez, est-ce que c'est un mine, est-ce que c'est un malchine. Même en hébreu aujourd'hui, en hébreu moderne, Al-Shana, c'est quelqu'un qui va aller rapporter. Ils ont dû inverser les deux mots. La minime, c'est les hérétiques. Et la malchinime, c'est les... Ils ont dû inverser les deux mots. Peut-être une erreur de mise en page. Donc, vela malchinim altéitikva. Les malchinim, donc ceux qui, comment vous avez traduit, la malchinim, c'est les délateurs. Moi, j'aurais traduit les délateurs. Non, les hérétiques, c'est la minime.
Ouais, c'est inversé, alors.
La minime, c'est la malchinim, c'est les délateurs.
Délateurs,
okay. Altéitikva, à Kadosh Baruch Hu, fasse qu'ils n'ont pas d'espoir. C'est-à-dire quoi, ils n'ont pas d'espoir? Ça veut dire que ces gens-là, pourquoi, de quel droit ils se permettent d'aller délater? Parce qu'ils se disent... Ils se disent, de toutes les façons, je pense que j'ai de la marge, que je peux réussir, donc je vais me permettre. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, on dit, Al Teitikva, fasse qu'ils n'ont pas d'espoir, et que même pas ils vont essayer parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas réussir. Alors, la machine Al Teitikva, après il y a plusieurs versions, c'est, comme il a dit M. Bishmus, c'est une bracha qui a beaucoup été changée au cours du temps, puisque c'est une bracha à la base qui ne faisait pas partie de l'Amida. Je ne sais pas comment ça va pas tarder les mots. Il dit après, Vechol Aminim.
Vechol
Azedim. Bon. Donc, au début il dit, attendez, au début il dit la minime et la malchinim.
Il dit la malchinim et la minime.
D'accord. Donc il dit la malchinim et la minime altéitikva, et après il dit vechol azedim. D'accord. Chez moi c'est vechol malchinim altéitikva, vechol aminim kerigal vedu. Bon. Donc, vechol aminim, ou bien vechol azedim. Donc minim c'est les hérétiques, on l'a dit, et zedim, d'accord.
Les scélérats là-bas. Les
scélérats. Zedim c'est les réchaïm. D'accord. Voilà, Zedim, c'est tous les fauteurs. C'est les fauteurs. Comment il traduit ici?
Scélérat.
C'est quoi scélérat?
Ouais, c'est pareil.
C'est un fauteur?
Ouais, c'est
un bandit.
Zedim, c'est les fauteurs. Les réchaïm, ceux qui font des avérotes. Ceux qui font des avérotes, Zedim, ça veut dire bémézid. Ça veut dire quand une personne fait une avéra, il peut le faire par inadvertance ou il peut le faire. Bémézid, ça veut dire en faisant exprès.
Consciemment.
Donc, les Zedim, ça veut dire mézid. Ouais. Ah oui, c'est bien sûr, c'est y a la source.
C'est
quoi un scélérat?
Un voyou, un type qui fait beaucoup de mal.
Qui fait exprès de le faire?
Oui,
c'est ça.
C'est son métier.
Bon, donc c'est ça.
C'est son métier.
C'est les fauteurs, ceux qui fautent donc de manière préméditée. Donc, Vechol Azedim, Kerega Yovedu. A Kadosh Baruch Hu fasse que tous les fauteurs, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est-à-dire les fauteurs qui veulent nous rapporter et qui veulent nous délater, Kerega Yovedu, fasse que. Kerega Yovedu, ça veut dire qu'ils vont se. Ils soient anéantis en un instant. Vechol Oivera, Meirai Karetu. Et que tous tes ennemis, Meirai Karetu, qu'ils soient vite retranchés. D'accord? Ça veut dire que Ikaretu, ça veut dire retrancher du monde. Tous les ennemis. Ah, c'est après. Vechol Son Era, d'accord? Mais encore une fois, il y a peut-être plusieurs versions. Non, peut-être le Vechol Son Era, il a dû dire après Ikaretu.
En même temps.
Vechol Oivera, Vechol Son Era, Meirai Karetu.
Il
y a beaucoup de variants dans cette bracha, particulièrement. Vechol Son Era, tous ceux qui te haïssent, d'accord? Tous ceux qui te haïssent à Kadosh Baruch Hu, Meirai Karetu, d'accord? Qui soient rapidement, donc on a dit retrancher de ce monde.
Karet,
ça veut dire retrancher. Oui, Meirai Karetu, exactement. Karet, ça veut dire retrancher. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, Sonecha, ça vient de Sin'a, d'accord? Et Oivecha, ça vient du mot Oyev, qui veut dire l'ennemi. Alors c'est quoi la différence entre un ennemi et celui qui nous hait?
C'est carrément deux.
Un ami, un de ton camp, il peut te haïr. Ennemi, c'est le camp adverse.
Oui, mais c'est quoi la différence entre quelqu'un qui entre l'ennemi et celui qui me haït?
On peut faire la paix avec un ennemi.
L'ennemi, il est personnel et...
Est-ce que c'est la même chose? Un ennemi, c'est quelqu'un, quand on dit Oivera, c'est quelqu'un qui me veut du mal.
C'est personnel.
Quand on dit Son Era,
très
bien, très bien, oui, vas-y. Oui.
Ennemi, c'est un fait.
Mais, a priori, d'après ce que le commentaire explique, Oivera, les ennemis, c'est ceux qui nous veulent du mal. Et Son Era, c'est ceux qui nous haïssent. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui me veut du mal et quelqu'un qui me haït?
Celui qui me veut du mal, il va tout faire pour...
Très bien. Alors que celui qui me haït, c'est au fond de son cœur. Donc c'est pour ça qu'on dit ici, c'est ma seule réponse, c'est ce que le Mefarshim explique. C'est bien, les définitions des avocats, c'est bien, hein, ça aide. Alors ce qu'explique le Mefarshim ici, Youssef toujours, il dit quoi la différence entre Oivecha et Son Echa? différence entre Oivecha et Shonecha. Oivecha, c'est ceux qui détestent Akadosh Baruch Hu de manière visible, ça veut dire que ouvertement ils sont contre Akadosh Baruch Hu. Et Shonecha, c'est ceux que ouvertement ils n'ont rien contre Akadosh Baruch Hu, mais au fond d'eux, ils haïssent tout ce qui est sacré. Ils haïssent tout ce qui est sacré. D'accord ? Donc Oivecha, Shonecha. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a deux termes.
Non, on parle de Dieu.
Oui, bien sûr, on parle des juifs.
Non, ça peut être aussi des goïms qui haïssent.
Encore une fois, dans la réalité de l'époque, il y avait des gens qui manipulaient les juifs par des informations qu'ils avaient, pour les détourner, tout d'abord pour leur soutirer de l'argent, et deuxièmement pour les détourner de la Torah. Ça, c'est pas comme aujourd'hui, que aujourd'hui la majorité des gens qui font pas Torah et Mitzvot, c'est parce que bon, leur Yetzarara il est trop fort. Ah, c'est pas le cas à l'époque. À l'époque, c'était des gens qui non seulement, Dieu préserve, haïssaient Dieu, mais en plus de ça, ils manipulaient des gens comme ça avec des informations qu'ils avaient pour leur dire si tu me suis pas, je vais t'embêter. C'est pour ça qu'on leur demande, c'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, tous ceux qui te haïssent, soit ouvertement, soit intérieurement. Il y a une structure dans la bracha aussi. Ou malchut
harishah. Ils sont conscients quand ils haïssent.
À l'époque, bien sûr, à 100%.
Ouais, on parle de conscient.
Comme l'histoire que j'ai racontée au Kolotania il y a deux semaines. J'ai dit une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi de Kotz qui a posé la question suivante. Ça, je trouvais très intéressante. Il a posé la question suivante au rabbi de Kotz. Il lui a dit, je comprends pas pourquoi on donne tellement d'importance au Tanakh, à la Bible. Mais quand on ouvre la Bible, on voit qu'il n'y a que des fauteurs, j'arrête pas de fauter. Il dit à Véroth que nous, ça ne nous vient même pas à l'esprit. Pourquoi on étudie ça? On perd notre temps à étudier ça. C'est une question ce qu'il a posé. Et voilà, qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi de Kotz? Tu te rappelles, t'étais là? Qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi de Kotz?
Avec leur faute, on fait une Torah et avec
tes mitzvot. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que, alors expliquez, c'est quoi la réponse de Rabbi de Kotz? Comment on a expliqué? Quel était le sens de la réponse?
Ça veut dire que leur niveau des fautes était...
Ça veut dire que eux, quand ils fautaient, pourquoi ils fautaient? Parce que quelque part, Dieu les dérangeait. Comme Dieu les dérangeait, donc ils disaient, je vais me révolter contre toi. Mais ça veut dire qu'ils croyaient en Dieu en vérité au fond d'eux. Tellement ils croyaient qu'ils devaient se révolter constamment. Nous... C'est vrai qu'on ne fait pas des avérotes comme eux, mais les mitzvot qu'on fait, on ne les fait pas avec une telle ferveur comme ils faisaient leur avérotes. Ça veut dire que nous, Dieu ne nous dérange pas comme Dieu les dérangeait. C'est pour ça qu'on dit ici, on parle de juifs ici, qui croyaient en Dieu, et que tellement ça les dérangeait, qu'ils faisaient tout pour tout casser. Kol oivecha, kol shonecha.
Pourquoi ils sont dérangés?
Pourquoi?
Pourquoi ils étaient dérangés?
Pourquoi ils étaient
dérangés?
Eh ben parce que c'était leur Yetzara. Leur Yetzara était très fort. On ne connaît pas, il n'y a pas de gens comme ça aujourd'hui, ne cherchez pas. On ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, les gens qui faut, c'est parce que leur Yetzarara est trop fort, c'est tout, c'est par plaisir. Alors, ensuite, je ne sais pas comment c'est écrit chez vous après. Umalchut Arisha, d'accord. Donc Umalchut Arisha, Meirat Teaker Utshaber Utmager. Et le royaume, donc le Umalchut Arisha, ça veut dire le règne, la royauté, le royaume du mal. Donc là, on parle de ceux qui vont collaborer avec les délateurs. Et ceux qui vont nous faire du chantage. Mais raté à car, que Kadosh Baruch Hu, tu vas rapidement. Alors, on va avoir quatre termes ici. Dans le Patachéo, je crois pas qu'il y a quatre termes. Mais vous verrez dans l'Ishmatliar, il y a quatre termes. Téaker, ou Téchaber, ou Téchalem, Vétachniem. Et il y en a même qui ont cinq, Vétachmidem. D'accord? Vous avez combien? Cinq ici? Très bien. Alors, Téaker, en hébreu, ça veut dire, on demande à Kadosh Baruch Hu de les déraciner. Téchaber, ça veut dire, ça veut dire briser. D'accord? Donc déraciner, briser, Techalem, c'est exterminer. Alors moi je vous donne les définitions, après on... Vetachniem, et tu vas les soumettre, d'accord? Vetachmidem, et les détruire. Qui peut m'expliquer la différence entre ces cinq termes? Bon, les trois premiers sont relativement simples. D'accord?
C'est de la torture.
Premier, c'est déraciner, d'accord? Déraciner, ça veut dire l'enlever, ça veut dire le prélever à la source. Techaber, c'est briser, ça veut dire briser le produit fini. Pas seulement à la source. Techalem, ça veut dire exterminer. Ça veut dire qu'une fois qu'on a brisé, il reste des résidus. Donc ces résidus-là, on va les exterminer, on est d'accord? Donc déraciner, briser et exterminer. Mais c'est là que ça va se corser. Ou tevetachniem, ça veut dire quoi? Soumettre. Ça veut dire quoi soumettre? Quel rapport avec soumettre? Mais il ne reste plus rien.
On parle de leurs idées, non?
Oui, d'accord, mais là tu m'as dit, tu vas les déraciner. Quand on dit, il y a un ordre, tu dis déraciner quelque chose, ça veut dire le prendre depuis la source, ok. Ensuite, tu vas le briser, mais tu vas le casser en mille morceaux, ok. Après, ce qui va rester, les mille morceaux qui vont rester, tu vas les exterminer. Donc il ne reste plus rien. Tu vas soumettre quoi? Le tartinien, c'est-à-dire soumettre, mais soumettre quoi? Alors c'est expliqué dans la Yom Yom, on l'a vu il n'y a pas longtemps. D'accord ? Bon, mais ça, c'est... D'après ça, il ne faudrait pas lire le cinquième mot. C'est expliqué dans Yom Yom qu'en vérité, on parle de deux choses différentes. Les trois premiers termes et le quatrième terme parlent de deux choses différentes. Les trois premiers termes parlent de Shalosh Klipot Atmeot. Dans le Zohar, on nous dit que tout le mal qu'on a autour de nous fait partie de ce qu'on appelle les trois Klipot qui sont impurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi trois, mais ça veut dire tout ce qui est impur et qui ne pourra jamais devenir kasher. Comme le cochon, comme tout ce qui n'est pas kasher. D'accord ? Bon, mais le cochon actuel ne deviendra pas kasher. Tout ce qui est impur. Ces trois choses-là, on dit à Kadosh Baruch Hu, on te demande de les déraciner, briser et exterminer. Quand on parle de Tachniem, de quoi on parle ? On parle carrément d'autre chose. On parle de la Klipat Noga. C'est quoi Klipat Noga ? Klipat Noga, c'est tout ce qui ne fait pas partie de la Kdusha. Par exemple, j'ai un café devant moi. Ce café n'est pas taref, d'accord ? Mais ce café, tant que je n'ai pas fait de bracha dessus, il n'a rien de sacré. Donc quand je vais faire une bracha sur ce café-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais soumettre ce café à la Kdusha. Donc, il explique comme ça dans Yom Yom, il dit que c'est pour ça qu'il faut marquer une pause juste avant de dire Vetachniem, puisqu'on ne parle pas de la même chose. On voit bien que quand on lit la traduction, on voit bien qu'on peut parler de la même chose, parce qu'il y a un ordre. Tu me dis déraciner, briser et exterminer, virgule, ça c'est pour ce qui doit être pour les forces du mal qui doivent être exterminées. Ensuite, Vetachniem. Vetachniem, c'est soumettre, ça veut dire soumettre ce qui doit être soumis et ce qui ne doit pas être détruit. Par exemple, tout ce qui n'est pas lié aux forces du mal, mais qui n'est pas lié à l'Akdusha. Ça, Kadosh Baruch Hu, tu vas les soumettre. Donc d'après ça, je ne comprends pas comment après on rajoute...
On peut dire Vetachmidel. Oui.
Vetachmidel.
Détruit.
Alors, si je ne me trompe pas, dans le Hishmatiyar, il n'y a pas le mot Vetachmidel. Il n'y a pas le mot Vetachmidel. D'accord ? Oui, mais dans le Hishmatiyar, si je ne me trompe pas...
Et là, on n'a pas de virgule non plus.
Mais si.
Et là, il n'y a pas de virgule, oui. Si je me trompe pas,
il n'est pas. Il est
pas chez vous ? Non. Il n'y a pas Vetachmidel.
C'est vrai que je prends ce livre.
Ici, ils ont bien fait. Vous savez ce qu'ils ont fait ici dans ce livre ? Ils ont pris la version du Hishmatiyar, mais quand il y a un mot qui n'est pas dans le Hishmatiyar, ils l'ont mis en plus petit. Le Vetachmidel, il est plus petit. Normalement, il n'y a pas. Ce que je me rappelle, il n'y a pas. Parce que sinon, c'est pas logique. Sinon, la suite... Parce que Vetachmidel, ça veut dire quoi ? Vetachmidel, ça veut dire qu'il soit effacé. Mais là, il n'y a plus de suite. D'accord ? C'est pas normal. On finit la bracha. Baruch Ata Hashem, tu es béni à Kadosh Baruch Hu. Shover Oivim, celui qui brise les ennemis. Umachnia Zedim, d'accord ? Et qui soumet les Rechaim. C'est très fort ce qu'on est en train de dire ici. Je répète. Là, je veux que vous m'expliquiez de vous-même qu'est-ce que je viens de dire. Celui qui, à Kadosh Baruch Hu, il brise les ennemis, d'accord ? Et il soumet les Rechaim. Ça veut dire quoi ?
Ben, briser les ennemis, déjà, c'est annuler toutes leurs actions.
Très bien. Nous. Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi la différence entre briser les ennemis et soumettre les Rechaim ?
C'est non-juif et le juif.
Non. C'est quoi la différence entre briser les ennemis et soumettre les Rechaim ? Pourquoi cette différence-là ? Non, pas forcément des non-juifs ici.
Quand tu brises, tu tues.
Non. De quoi ?
Est-ce qu'on parle des juifs ? Tu dis oui.
Et ensuite, tu les
oui, d'accord. Tu m'as dit les non-juifs. On parle pas forcément des non-juifs. J'ai entendu les non-juifs,
je te dis. Non, je te dis, est-ce que ça concerne les non-juifs ?
Ça concerne les juifs, oui. Là, c'était les juifs. On fait une petite allusion, il y a une petite parenthèse dans laquelle on dit « Malchut Arisha ». D'accord ? On demande à Kadosh Baruch Hu de... Ça, c'est l'or. Non, la royauté, c'est pas les juifs. Bah, c'est ceux qui collaborent avec les délateurs. D'accord, c'est ça que je te dis. Chauvet Revue Martinez et Dim, on parle pas de Réchaïm, on parle pas des non-juifs ici.
Côté. Richard, oui. la mauvaise royauté.
Oui.
Une royauté non-juive peut-être Rachat.
Bien sûr.
D'accord.
Ah, bien sûr, je dis. Il y a besoin de... Ahmedinejad, c'est quoi si c'est pas un Rachat ?
Alors écoute.
Alors deux secondes. C'est quoi Chauvet Revue ou Martinez et Dim ? D'accord, on va pas perdre le fil, on finit avec ça. Shover Oivim ou Machnia Zedim, Akadosh Baruch Hu, il brise les ennemis et il soumet les Rechaïm. Ça veut dire quoi ? On l'explique comme
soumet,
ça.
C'est encore
d'accord ?
Vivant,
ah, écoutez bien. Non, justement. Quand on dit casser, quand on dit briser, ça veut dire qu'il n'y a pas de chance. Quand on dit soumettre, ça veut dire qu'il y a encore une chance.
Voilà.
On explique comme ça. J'ai vu un très beau commentaire. Il dit comme ça. Il dit, c'est qui les Oivim ? C'est qui les ennemis ? Les ennemis, c'est les minimes. Les minimes, comme vous avez traduit, c'est les hérétiques. On dit les hérétiques, c'est des gens que même quand Machiav viendra, ceux-là, ils vont pas revivre.
Ils essayaient de nous convertir.
Parce que ceux-là, ils combattaient à Kadosh Baruch Hu avec préméditation. Ceux-là, ils n'ont pas de part au monde futur. C'est pour ça qu'on dit ceux-là, Kadosh Baruch Hu, il va les briser.
Et, ben voilà,
et il les a déjà brisés. Ils n'existent plus. Briser, ça veut dire qu'ils récupèrent. Voilà. Par contre...
C'est ce qui pousse les juifs à aller vers la divinité.
Oui. Voilà. Mais qu'eux-mêmes aussi, ils se sont révoltés contre Kadosh Baruch Hu, mais révoltés par la logique, pas par le désir. La majorité des gens aujourd'hui, c'est par le désir. Parce qu'ils ont envie de faire des bêtises. Alors on dit comme ça. Shover Oyvim. Akadosh Baruch Hu, il brise les ennemis. Les ennemis, c'est les minimes. Donc les hérétiques. Mais Umbachnia Zedim. Même les Rechaim qui font des Averot Zedim, ça veut dire Bemezid, ça veut dire avec préméditation. Il va s'arranger pour les soumettre, d'accord, sans les détruire. Ça veut dire qu'il va s'arranger pour les préserver, mais bon, on va devoir les soumettre. Comment on soumet quelqu'un? Bon, on va faire, peut-être qu'il devra faire un peu de forcing. Mais, il va les soumettre, il ne va pas les briser. Shover Oyvi ou Machnia Zedi. Comment on a une petite nuance de l'Amida. C'est-à-dire, de là, on apprend, on apprend que même les Rechaim qui ont fait d'Averot, de Mézid, avec préméditation, mais qui ne l'ont pas fait par révolte pour Akadosh Baruch Hu, mais qui l'ont fait par pur plaisir, Akadosh Baruch Hu, il s'arrangera pour les soumettre. C'est-à-dire quoi les soumettre? Peut-être qu'ils auront des punitions, ils auront un peu de machine à laver, hein, de kafakela, etc. Bon, mais au bout du compte, ils vont s'en sortir. Dieu va les soumettre, c'est-à-dire qu'ils vont s'en sortir.
Entre l'un et l'autre, le premier a fait fauter Israël, et le deuxième...
Pas forcément. Non. Le minime, c'est même intérieurement. Parce que le mine, c'est même quelqu'un qui, même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu intérieurement, mais qui ne croit pas en Dieu par la logique. Ça veut dire qu'il a décidé de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de gens comme ce genre, je ne cherche pas, il n'y a presque pas de gens comme ce genre. Enfin, je ne crois même pas qu'il y a des gens comme ce genre.
Révolter comment?
C'est-à-dire comme ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un il fait une avéra, pourquoi il fait une avéra?
Il se révolte.
Ignorance.
Il se révolte.
Non, pas du tout.
Ignorance.
Non.
Il ne croit pas que c'est vrai.
Pas du tout. Aujourd'hui, quand il est faible. Aujourd'hui, les gens, quand ils font des avérotes, c'est par faiblesse. Soit par faiblesse intellectuelle, je comprends pas, donc ça me casse les pieds. Soit par faiblesse sentimentale. Je comprends, l'avéra était trop tentante, mais c'est une faiblesse. D'accord? À l'époque, les gens qui faisaient d'avérotes, c'était pas pour représenter une faiblesse, c'était une force intérieure. Ils avaient envie de se battre contre Akadosh Baruch Hu, c'est ce que le rabbi de Kotka dit. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Des gens qui veulent se battre contre Dieu.
Mais comment se battre?
Ça veut dire, c'était pas une faiblesse, c'est pas je comprends pas ce que Dieu fait.
De la viande et tiens, regarde, je vais le faire là, regarde.
Mais comment tu peux te battre contre la personne
en position
qui tu es?
Dieu se cache, si vous voulez. Bon.
Non mais, quand on n'est pas conscient, c'est ça la faute. Moi je dis pourquoi la créature, elle pèse contre le créateur? Parce qu'elle n'est pas consciente, elle ne le voit pas, donc elle a l'impression que c'est...
Oui, mais ce qu'on veut dire, c'est la différence entre le mine...
Mais si elle le voyait, c'est sûr qu'elle serait...
C'est-à-dire que les minimes... C'est quoi les minimes? Les minimes et les hérétiques, c'était des gens qui étaient des grands talmides chachamim. C'était des gens très très intelligents. C'était des gens qui étaient capables de vous tourner la Torah dans tous les sens, mais qui n'ont pas accepté la Torah orale.
Dieu préserve, puisqu'il y a eu des choses.
Une seconde. Mais ils n'ont pas accepté la Torah. C'est-à-dire que c'est des gens très intelligents. C'est pas des gens qui refusaient la divinité par faiblesse, comme nous. Bon appétit. D'accord?
C'est relou, là.
Mais ils pensaient qu'ils étaient dans le vrai quand ils agissaient.
Oui.
J'ai eu la voix de ma femme.
Ceux-là, ils n'ont pas de part mon futur. Pas de part mon futur, ceux-là.
Non, mais ce que je veux dire, quelqu'un qui est conscient de la grandeur d'Hachem, et qui il se révolte contre lui en sachant que qu'est-ce qu'il est, c'est quoi son combat.
Justement,
il n'a pas commencé.
C'est des gens qui ont décidé de... C'est des gens qui comprennent et qui faisaient exprès. C'est des grands amis des Rahamim, les minimes. Vous savez que des fois, on dit, il y avait des fois où les minimes ont réussi à bloquer les amis des Rahamim, de la Gemara. Des fois, on raconte, et des fois, ils leur ont posé des questions, il n'y avait pas de réponse. Ah, c'est des fois des générations après qu'on a eu la réponse.
Dans l'erreur, et qui pensent qu'ils sont dans le vrai vis-à-vis d'Hachem. Donc bien sûr que ça...
Non, c'est pas vis-à-vis d'Hachem, c'est vis-à-vis d'eux. Ils ne voulaient pas accepter de Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Ils disaient la Torah, c'est intéressant, pas de maître.
Pas de maître.
Baruch Hashem, vous ne comprenez pas.
Dis-moi.
On n'a pas de gens comme ça aujourd'hui. Ça va être là.
Comme si qu'un bébé...
On peut dire